Le Talk Franchise.
Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
Bonjour à tous et bienvenue à Franchise Expo Paris. Je suis ravie d'être avec vous pour cette 40e édition. Aujourd'hui, nous allons discuter ameublement pour ce nouveau Talk Franchise. Et pour discuter de ce secteur en vogue, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Raymond, directeur général de Quadro, et Franck Écalard, directeur général de Cuisine Plus. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à mes côtés ce matin. Donc, comme vous le voyez, je ne suis pas Nicolas Monnier, parce que mon collègue est absent aujourd'hui. Je suis Camille Boulat et je suis journaliste pour l'officiel de la franchise. J'ai oublié de me présenter. Alors, merci d'être avec moi cet après-midi. Pour commencer, est-ce que vous pouvez décrypter un petit peu vos enseignes respectives, le maillage territorial et sur quel marché vous évoluez ? Laurent Raymond.
Donc le réseau Quadro est spécialisé en agencement sur mesure pour l'intérieur de la maison. Donc nous avons aujourd'hui un réseau de 60 magasins qui s'appuie sur deux marqueurs importants. Le premier, c'est qu'on défend le 100% sur mesure dans 100% de la maison. Donc on peut intervenir dans toutes les pièces de la maison. Et avec une autre approche qui est la démocratisation du sur mesure. L'idée étant de dire que le sur mesure n'est pas un luxe. Et pour ça, on s'appuie sur la plus grosse usine de sur mesure en France, qui est située dans la Sarthe. Et on propose deux concepts de magasins, centre-ville et zone commerciale. Voilà.
Franck et Calard, même exercice.
Même exercice. Cuisine Plus, c'est une enseigne que pas mal de gens connaissent, puisqu'on existe depuis 1984. Une enseigne qui fête ses 38 ans aujourd'hui, adossée au premier franchiseur européen du secteur, le groupe FBD, qui détient également d'autres marques. Le réseau compte... au moment où l'on se parle, 61 magasins et une fin d'année qui est prévue aux alentours à 70 ou plus magasins. Donc un rythme de croissance d'une 12-14 ouvertures par an depuis 2 ans. Un secteur qui est en forte progression. Et donc le credo de Cuisine Plus, un petit peu à l'instar de ce que disait Laurent, c'est aussi de proposer des cuisines premium à un niveau de prix accessible, avec aussi une volonté d'être sur des approches commerciales qui sont extrêmement claires pour le client. On a une offre permanente sur de l'électroménager, donc le prix est connu à l'avance. Et puis également une volonté de se diversifier un petit peu sur d'autres univers que la cuisine progressivement.
Alors on le sait, l'agencement de l'habitat a connu de fortes progressions du fait des confinements et du fait qu'on était chez nous et qu'on a souhaité un peu rénover notre intérieur. Quel regard vous portez l'un et l'autre sur vos marchés respectifs, parce que vous êtes sur des marchés un tout petit peu différents, donc quel regard vous portez sur cette croissance et sur les mois à venir, Laurent Raymond ?
Alors nous, effectivement, on est sur un marché, le marché de l'agencement sur mesure, qui est un marché encore assez récent. Donc c'est un marché qui connaît une croissance permanente de 5 à 10% par an avant la période Covid. On a connu évidemment une flambée à l'occasion des déconfinements successifs. Donc le regard, c'est un marché qui continue à se construire et à se mailler. On est dans cette phase encore où finalement l'offre crée la demande. Donc à chaque fois qu'on ouvre un magasin, on donne de la visibilité à l'offre et les magasins démarrent très vite. Ce qu'on constate, c'est qu'une fois passée cette vague post-confinement, le marché retrouve son rythme de croissance de 5 à 10% par an, ce qui reste évidemment un très bon rythme, avec des évolutions dans le comportement. On retrouve toujours nos deux drivers habituels, que sont la recherche d'optimisation du volume de rangement et l'appétence pour l'esthétique, ce que j'appelle l'effet Pinterest. Les gens veulent des choses personnalisées. Mais on voit aujourd'hui apparaître des vraies problématiques comme le fait par exemple de travailler à deux à la maison en télétravail, et ça il faut l'organiser parce qu'il y avait un peu de télétravail avant, mais ça devient maintenant vraiment quelque chose qui s'ancre, et travailler à deux à la maison en même temps pendant 3 jours, ça s'organise. Donc on voit apparaître comme ça des nouveaux besoins, on va dire.
Vous constatez les mêmes demandes et les mêmes attentes des clients, Franck et Calard ?
Oui, d'une façon générale, tout le monde sait que le confinement a été très favorable au marché du meuble, d'une façon générale, pour les raisons que Laurent évoquait. Donc, on a aussi cette demande de télétravail dans la cuisine, donc il faut être sensible aux clients. L'acteur numéro un de la fabrication de cuisine en Europe, c'est l'Allemagne, et donc nous approvisionnons auprès de fabricants allemands, mais pas parce qu'on ne veut pas faire du français, c'est juste qu'à un moment, vous savez, le RSE et le Made in France, ça va bien jusqu'à ce que vous annonciez le prix au client. Donc, bon, je ne dis pas que ça ne changera pas, mais en tout cas, non, ce n'est pas le moteur principal. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que malgré tout, Cuisine Plus, c'est une enseigne bretonne. Hein, c'est une enseigne qui est née à Quimper, alors au fin fond du Finistère, où le siège est toujours présent. Le siège social est toujours à Quimper. Et puis, Cuisine Plus, c'est une enseigne, pour le coup, franco-française. Et quand on a 60 magasins, on fait vivre des centaines de familles françaises. Et donc, pour le coup, cet argument-là, on l'a aussi. Mais ce n'est pas le moteur de l'achat. Je crois que si votre question, c'était quelles sont les tendances de consommation, les tendances des consommateurs aujourd'hui, clairement, les confinements ont fait que les consommateurs ont eu envie de se faire plaisir. Ont eu envie de... parce qu'ils ne pouvaient pas dépenser leur achat, leur argent.
Il y a eu un report de la consommation.
Ils pouvaient plus aller au restaurant, ils pouvaient plus aller en voyage, etc. Et donc, le maître mot, c'était de se faire plaisir en s'offrant de belles choses avec des fonctionnalités, et là, Laurent a raison, des fonctionnalités qui n'existaient pas. Nous, le télétravail, aujourd'hui, on a développé des modules télétravail avec des tables qui basculent de façon à ce qu'on puisse créer un bureau, au sein de sa cuisine. Mais voilà, donc moi, je dirais que le moteur de consommation actuel, c'est vraiment se faire plaisir. On en a bavé pendant 2 ans, donc là, maintenant, on ouvre le porte-monnaie et on a envie de se faire plaisir.
Mais justement, cette croissance, ces performances exceptionnelles que vous avez faites pendant 2 ans, aujourd'hui, ça va, je pense, s'essouffler, évidemment, logiquement. Comment vous l'intégrez, ça, dans vos prévisionnels? Comment vous rassurez les candidats qui se disent « Chouette, c'est un secteur porteur, est-ce que ça va s'essouffler ?» On n'a pas de boule de cristal, mais comment vous voyez les mois à venir ?
On ne l'intègre pas. On a vécu un phénomène imprévisible, indépendant de notre volonté. C'est la définition même de l'impromptu. Donc, ce n'est pas calculable. Dans ce type de situation, ce qui rassure les franchisés, c'est de voir à quel point on a eu cette capacité à rapidement développer des solutions, les emmener pour... je peux dire la progression de Cuisine Plus en 2021, c'était pratiquement plus 33%. Sur un marché qui était très fort, à plus 22-23%. Donc, on a en plus surperformé les choses grâce à ces solutions-là. Donc, c'est ça qui rassure les franchisés. Et aujourd'hui, je dirais que, honnêtement, quand je vois un candidat, je ne lui parle pas de ces 2 années. C'est une parenthèse anormale, dans le bon sens, mais anormale de la vie de notre vie de Cuisine Plus. Et c'est pour ça qu'avec Laurent, on vous parle de marché qui est 5 à 10, 8 à 10. Parce que ça, c'est la réalité. Et notre job de franchiseur, c'est d'être plutôt à 10 qu'à 8.
Vous avez la même politique chez Quadro, oui. Du coup ?
Tout à fait, la même politique. On n'a pas changé notre approche sur la manière de bâtir les prévisionnels, par exemple. Effectivement, l'année 2021, je rejoins Franck, c'est une année qui est exceptionnelle. Pendant le confinement de mars-avril 2020, si on avait imaginé que ça allait déconfiner avec autant de puissance derrière, on était tous en train de se dire dans quel état ça va se passer. Enfin, on sera à la fin de l'année. Enfin,
la relance était incertaine.
Elle a été incroyable, avec à la fois une année 2021 qui est faite de records absolus en termes de performance commerciale, de difficultés opérationnelles aussi, parce que alors pour le coup, nous, en tant qu'industriels, on a vécu quand même la pénurie sur les matières premières.
J'allais y venir, oui.
Donc les délais se sont rallongés, inévitablement. Aujourd'hui, en fait, on revient à la normale, en réalité. Donc, on continue à bâtir nos prévisionnels de la même manière. Et le début d'année nous montre qu'on est sur les tendances habituelles. On n'a pas un magasin qui est en difficulté. On est dans un rythme de progression qui est maîtrisé, maîtrisable. Et on tient ce discours de sagesse aussi en disant qu'on continue à bâtir les prévisionnels en étant raisonnable.
Vous parliez de retour à la normale, mais on a cette ombre des problèmes d'approvisionnement aujourd'hui qui est au-dessus de nos têtes. Comment vous vous adaptez l'un et l'autre dans vos enseignes sur ces problèmes d'approvisionnement, les hausses des coûts des matières premières et tout ce qui s'ensuit ?
Alors, nous, on l'a travaillé en tant qu'industriel en allant chercher des gains de productivité. On a accéléré sur des programmes de transformation industrielle qui étaient déjà engagés, en fait, qu'on a accéléré pour aller plus vite, de sorte à ne pas répercuter l'intégralité des hausses qu'on a prises sur les matières premières, sur les magasins et donc sur le consommateur final. Donc on a réussi à l'absorber. Maintenant, voilà, on va voir comment va se passer l'année qui vient. De toute façon, on est dans un cycle inflationniste, qu'on le veuille ou non. Donc il y aura très probablement encore des hausses de prix cette année. mais c'est le cas dans tous les secteurs en fait. Donc il faut juste être raisonnable. Il ne faut pas que ça mette en péril. Vous savez, c'est l'élastique, hein, on tire sur l'élastique, mais il y a un moment donné où il faut faire attention. Nous, on a la chance d'être sur un secteur d'activité qui est encore très peu concurrentiel. Le rangement, c'est nouveau, donc on est vraiment dans cette phase émergente de marché, comme je le disais tout à l'heure, où l'offre crée la demande, ce qui permet aux magasins d'être sur des niveaux de marge confortables. Là aussi, ça leur offre une certaine flexibilité par rapport à leur charge fixe. Donc le modèle économique résiste bien à la période.
Vous avez la même analyse de votre côté chez Cuisine Plus ?
Mais nous, on subit ce que nous font subir et ce que subissent eux-mêmes les industriels cette sécurité qu'offrent les grands groupes industriels qui avaient déjà anticipé un certain nombre de hausses, puisqu'en fait, il y a eu deux phénomènes. Hein. Il y a le phénomène des hausses qui ont été liées au problème des transports, des containers, etc. Il faut quand même savoir qu'il y a deux ans, un container de 30 pouces, ça valait 2 000 euros. Aujourd'hui, il est passé à plus de 14 000, 15 000 euros.
Ça s'est envolé.
Donc forcément, ce qui est dans le container de 30 pouces, à titre d'exemple, un four de cuisson sur son prix d'achat a pris 50 euros rien qu'en coût de transport. Donc évidemment, on est obligé de les répercuter. Évidemment, on est obligé d'être astucieux parce que le porte-monnaie du client, lui, n'est pas dans le conteneur. Lui, il n'a pas pris
fois 2 ou fois 4.
Donc il faut s'adapter. Il faut parfois, vis-à-vis du client, avoir un discours d'honnêteté, puisque quelque chose qui est important, c'est comme de respecter son client et de respecter le budget qu'il est prêt à mettre dans son achat. Donc parfois, ça passe par des solutions qui sont peut-être moins élaborées. Et puis, d'une façon un peu plus long terme, Je pense que ça peut être une chance. Ça peut être une chance aussi de travailler différemment les matériaux, d'accélérer la recyclabilité de certains matériaux ou tout simplement les approvisionnements. Donc effectivement, est-ce qu'on va vers une réindustrialisation de l'Europe ? À titre personnel, je le souhaite. Je pense que ce serait une bonne chose. Est-ce qu'on va faire plus de recyclage ? Je le souhaite aussi. Hein. Depuis le début de l'année, les distributeurs ont une forte pression hein, sur la loi de récupération et de recyclage un pour un. Donc, écoutez, gageons que, de toute façon, comme disait Laurent, on est sur des cycles durables, on est sur des cycles inflationnistes, avec des pays sur lesquels il y avait un très fort approvisionnement de matières premières. Donc, on ne peut que faire preuve d'imagination, de résilience et de capacité d'adaptation.
On a compris que c'était un secteur porteur. Quels sont les profils de candidats que vous recherchez l'un et l'autre ? Est-ce que c'est les mêmes profils ? Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques à connaître ? Est-ce qu'il faut être issu du secteur ? Quels sont les profils idéaux pour vous chez Quadro ?
Bon, le profil idéal, on le cherche tous.
Le mouton à 5 pattes.
Oui, c'est ça. Non, je pense que ce qui est, bien évidemment, la dimension commerçante est fondamentale, parce qu'on est dans un métier de commerce avant tout. Pour ce qui nous concerne, il faut aussi une appétence technique. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un issu du métier, parce qu'on ouvre quand même régulièrement des magasins avec des gens qui ne sont pas issus du métier, mais on met en place toute la formation pré-ouverture pour les préparer au métier. Et on double cette formation d'un accompagnement post-ouverture par un formateur terrain qui accompagne pendant plusieurs mois les magasins après leur ouverture pour accompagner la montée en compétences qui se poursuit après l'ouverture du magasin. Donc, par contre, voilà, au départ, il faut quelqu'un qui ait une appétence technique, une envie d'y aller, une sensibilité créative aussi, parce qu'on est dans un métier dans lequel la dimension esthétique des créations qu'on fait en magasin est évidemment importante. Donc, une fois qu'on a validé, je dirais, cette appétence technique et cette sensibilité créative, la dimension commerçante, après, on va orienter les candidats en fonction des modèles économiques. Le magasin de centre-ville est un magasin dans lequel le franchisé sera vraiment le premier producteur, entre guillemets, de son chiffre d'affaires. Et on est presque plus sur un bureau d'archi d'intérieur avec une petite équipe. Quand on est sur de la zone commerciale, on est sur des magasins où il va y avoir 3 ou 4 concepteurs-vendeurs. Et là, il faut quelqu'un qui ait une dimension managériale aussi importante, déjà expérimenté en tant que manager, possiblement dans un autre métier, mais en tout cas une expérience managériale.
Franck et Calard, est-ce que c'est les mêmes profils que vous recherchez chez Cuisine Plus ?
Je ne sais pas. Non. pas vraiment. Une franchise, c'est quoi ? C'est une marque, un savoir-faire et puis un accompagnement. Et un franchisé, c'est quoi ? Et d'ailleurs, un franchisé et un franchiseur, c'est quoi ? C'est deux personnes qui vont se marier.
On le répète souvent.
Contrat de franchise, c'est un contrat de mariage. Donc nos intérêts sont communs. Le franchiseur doit déceler dans le franchisé le candidat le plus performant possible au niveau de ses aptitudes, puisque les compétences, comme disait Laurent, on les transmet. On les transmet au travers de formations, on les transmet... Et quand je parle d'aptitudes, c'est des aptitudes à évidemment manager, parce que le management, c'est une aptitude, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Aptitude de commerçant aussi, le fait de vouloir vraiment apporter du service à ses clients et de réussir. Il y a quand même une notion de compétition qu'il faut savoir réussir. Et puis après, j'ai envie de dire, tout le reste, on s'en occupe. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de profil type. Bon, globalement, il faut quand même... Généralement, on est sur des unités qui font entre 2 et 6 millions d'euros. C'est quand même des grosses boutiques. On a des magasins entre 5 et 10 personnes. Donc, la notion managériale, elle est importante. Donc je dirais, moi, il faut quelqu'un qui aime les gens, aime ses clients et aime ses équipes, et a envie de réussir. Et puis surtout, ait quand même des capacités, ou en tout cas des aptitudes à être un bon commerçant ou un bon gestionnaire. Tout le reste, je dirais, vous savez, je dis souvent à ça, mais on ne sauve pas des vies, hein, on ne fait que vendre des cuisines, et des cuisines, c'est des bouts de bois. Alors c'est péjoratif, je le dis comme ça, mais ça remet un petit peu tout le monde sur le même niveau. Et quand chacun est à sa place... Le franchisé est à sa place et le franchiseur est à sa place. C'est là où ça fonctionne très, très bien, en fait.
En matière de financement, il faut compter un investissement global de combien pour lancer un magasin Quadro et pour lancer un magasin Cuisine Plus ?
Donc, quand on est sur un magasin de centre-ville, chez Quadro, on sera sur un investissement de l'ordre de 200 000 euros en dehors du droit au bail, qui est l'élément aléatoire qu'on cherche à éviter en général, quand même. Quand on est sur des magasins de zone, on est sur un investissement de 300 à 350 000 euros. Donc, c'est-à-dire sur un magasin de centre-ville, un candidat qui a un apport de 40-50 000 euros, on peut monter un dossier. Et sur la zone commerciale, un apport de 70 à 90 000 en fonction de l'importance de l'investissement. Voilà.
Ce sont les mêmes investissements chez Cuisine Plus ou c'est différent ?
Bien sûr que c'est différent. Non, non. Un magasin Cuisine Plus, c'est 350-400 000 euros. Et donc en termes d'apport personnel, on a des conditions avec nos partenaires bancaires qui font que à partir de 60-70 000 euros d'apport, on sait financer sur des proportions, des ratios de 1 à 4. Merci de poser la question parce qu'on a inauguré quelque chose. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si ça peut intéresser Laurent, mais on a inauguré quelque chose qui est intéressant, qui s'adresse aux jeunes parce que on n'a pas parlé de ça, mais l'avenir quand même des réseaux de cuisine, enfin des réseaux de franchise.
Ce sont les nouvelles générations.
Qui vont être acheteurs et clients chez nous. Et pour pouvoir vendre à ces générations-là, il faut que nous aussi, on attire au sein de nos équipes des jeunes. Et les jeunes n'ont pas les mêmes codes que nous. Alors, juste un petit mot là-dessus. Cuisine Plus a inauguré, il y a 6-7 mois, un programme d'aide à ces jeunes talents qui s'appelle la Bourse aux Talents. Elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse à des vendeurs de nos magasins ou des vendeurs du secteur d'activité ou des directeurs de magasins qui sont salariés et qui veulent se mettre à leur compte et qui, une fois validés leurs fameuses aptitudes et compétences à ce métier, peuvent bénéficier d'une assistance du franchiseur afin de consolider leur apport personnel. Ce qui a un double effet, c'est que d'une part, un jeune qui n'aurait pas eu les moyens ni l'apport d'ouvrir un magasin, eh bien dispose de l'apport nécessaire. Et puis le deuxième effet qui se coule, c'est quand vous allez voir le banquier et que vous dites ben, « j'ai une grosse partie de mon apport perso qui m'est apporté par le franchiseur mouille le maillot », ce qui veut dire aussi que le franchiseur est sûr de là où il veut aller. Et en tout cas, le franchiseur est, le mot n'est pas beau, mais condamné à faire réussir son franchisé.
C'est de la franchise participative, en quelque sorte.
Mais je pense qu'on a besoin d'évoluer. Hein. Je pense que le modèle de franchise va devoir évoluer pour capter ces nouvelles générations.
Mais le curseur entre « j'accompagne un candidat qui a peu de moyens » et l'ingérence dont on peut avoir peur dans ce cas de figure...
C'est pas de l'ingérence.
C'est
pas de l'ingérence parce qu'on lui fait un prêt.
D'accord.
On lui fait un prêt. Donc on lui prête de l'argent pour qu'il puisse s'établir. On lui donne le coup de pouce. De façon à ce que la banque derrière puisse dire on va suivre nous aussi et on va y aller. Quoi.
Est-ce que ce sont des mécanismes que vous avez mis en place chez Quadro, que ce soit même si c'est assez marginal ou pas, et est-ce que vous y pensez si ce n'est pas le cas ?
Alors on y pense, on n'a effectivement pas de mécanisme en place aujourd'hui. C'est clairement un sujet parce qu'effectivement, comme le dit Franck, les jeunes talents qui sont dans nos magasins aujourd'hui qui ont envie de se lancer, Ils ont l'avantage de leurs inconvénients, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont la patate, ils ont souvent l'expérience, ils ont l'envie.
Ils n'ont pas l'apport.
Ils n'ont pas forcément l'apport, donc il faut le travailler dans ce sens-là. Nous, le cas, ce n'est pas encore présenté aujourd'hui, mais ça fait partie des projets sur lesquels on travaille pour pouvoir accompagner justement ces jeunes effectivement, qui vont devoir monter des magasins demain. Et aujourd'hui, on le fait par des accompagnements, nous, sur le financement des expositions, par exemple, parce qu'on est industriel. Donc on a ce levier sur lequel on peut jouer qui permet aux franchisés d'avoir des retours sur investissement sur sa partie expo sur les trois premières années. C'est le moyen qu'on démontre nous aussi aux banquiers, pareil, que le franchiseur est derrière et croit vraiment dans le projet, dans le candidat. Mais clairement, oui, sur les jeunes, je rejoins Franck, il y a un vrai sujet.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec moi cet après-midi. Merci. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés dans la salle et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon salon Franchise Expo.
Le Talk Franchise,
le magazine audio de l'officiel de la franchise.